Ghost Land avec Crystal Reed, Anastasia Phillips, entre autres, Anthony Damario, George Bukov et Ed Rigg signent la musique de ce film d'épouvante du réalisateur français Pascal Laugier. Ils sont avec nous. Écoutons d'abord un premier extrait de Ghost Land. Ghost Land, alors on vient d'entendre ce piano comme ça, George Bukov, Anthony Damario et Edric Rebonjour.
Ouais,
donc
bonjour.
Vous avez écrit cette musique, alors vous êtes trois sur le projet, trois français, c'est un film français malgré sa langue anglaise, avec Mylène Farmer, je ne l'ai pas cité. Ghost Land, donc on est vraiment dans le territoire du film d'épouvante. Avec ce piano, est-ce qu'on peut parler de contrepoint? Est-ce que ce piano apporte justement un décalage? Est-ce que l'idée de la musique de film d'un film d'épouvante, est-ce que l'idée est d'être dans le soutien de l'horreur ou en décalage? Il y a un peu des deux dans ce film, hein, j'ai l'impression.
Écoute, concernant le piano, je peux me permettre d'intervenir, puisque s'il y a du piano, c'est parce que je suis pianiste. Commençons par là. Donc, alors effectivement, il est rare d'entendre un piano solo ou un piano qui est très en avant dans une musique d'horreur. Et au départ, quand Pascal est venu pour me proposer de faire la musique du film, on a travaillé d'abord sur des thèmes au piano. Évidemment, ça s'est avéré insuffisant, parce que tu ne peux pas faire simplement une musique de film avec le piano, même si par ailleurs je proposais des recherches acoustiques sur un univers corde piano où on utilise la table d'harmonie. Donc Pascal a apprécié ces thèmes au piano, qui sont une sorte de fil conducteur, et ensuite il m'a demandé de trouver des solutions que je n'ai pas pu trouver. Et alors j'ai eu la main heureuse en rencontrant Anthony Damario et ensuite Edouard Rigg, qui eux ont ajouté autour de ces... Enfin, ils n'ont pas fait que orchestrer des parties piano, loin de là, mais parce qu'il y a des parties piano solo qui existent, n'est-ce pas? Et il y a des parties comme ce que tu viens d'entendre, où il y a une partie piano solo et puis bien une orchestration. Mais il y a deux univers dans ce film, et ça, après je laisse la parole à mes camarades, un univers qui est très mélodieux, vraiment très très mélodieux, je dirais presque de façon caricaturale mélodieux. Hein. Et puis ensuite, on est davantage dans un langage en phase avec le film d'épouvante, où il y a une recherche de son, de timbre, et des orchestrations qui sont très fouillées, très subtiles, voilà. Et donc, sur lesquelles ils ont travaillé. Pour l'essentiel, c'est eux qui ont fait ce travail.
Donc, George Bukov, vous êtes pianiste et compositeur, mais aussi superviseur musical. Et c'est à ce titre de superviseur musical que vous avez été le premier contacté par la production.
Non, ça s'est pas passé comme ça. Je t'ai contacté au départ pour être producteur exécutif des musiques et par Pascal, parce que surtout, avec Pascal, depuis 2013, on se connaît très bien, on se fréquente régulièrement. Mais on se fréquente comme artiste, moi en tant que concertiste et producteur de spectacles musicaux et de concerts et de théâtre musical, et lui comme réalisateur. Mais nous n'avions jamais envisagé de travailler ensemble, et il n'y avait pas de raison qu'il me propose quoi que ce soit, puisque je n'avais jamais fait de musique de film. Donc lorsqu'il me l'a proposé, j'ai pas dit non, je me suis mis à travailler vraiment à partir du piano. Et il faut savoir qu'il est pianiste,
D'accord. Donc
il joue pas mal. Hein, il est pas du tout novice. Il reproduit beaucoup de musique de films qu'il aime au piano. Donc notre relation, c'est un peu structuré autour de l'instrument du piano. Ce qui fait que dans le film, on retrouve une part de notre intimité relationnelle, parce que il a voulu du piano. Et je me souviens même que sur certaines mélodies, je lui disais on pourrait retirer le piano et mettre autre chose ou faire une orchestration. Et Pascal disait non. Jouer le piano. Et parfois, j'ai fait quatre orchestrations d'un thème en lui disant, mais c'est peut-être mieux. Tu te souviens, par exemple, La Fuite.
Non, pas là, non.
Si, dans la Fuite, on voulait faire une orchestration.
Ah, on voulait, on
voulait
lieu,
faire une orchestration du retour ou dans La Fuite. Et finalement, il dit, non,
c'est non, solo,
non, ouais. Je veux le piano solo. Donc, au fond, quelque chose de notre complicité dans la vie, parce que chez Pascal, on fait des bœufs, quand il vient chez moi, on fait des bœufs, et rester dans ce film, et c'est ce qui le rend très attachant à mes yeux.
D'accord. Ouais. Et donc, du coup, quand Pascal Laugier vous a proposé de participer à la musique, contribuer, même la diriger, en quelque sorte, l'équipe musicale, c'était pas envisagé au départ, c'est-à-dire que le film était déjà terminé quand vous êtes
complètement terminé. Totalement tourné, et il avait une idée musicale qui, je crois, lui avait été suggérée par son épouse, Lila, et en plus, c'est peut-être pour ça qu'il a aussi pensé au piano. Elle lui a fait entendre une version de How Insensitive, de Carlos Jobim. Et alors, c'est le côté incongru, tu vois. Sa femme lui dit, tiens, regarde, j'ai une version de Jobim, d'Insensatez, joué par un pianiste allemand. Et tout d'un coup, il écoute ça, ça l'inspire. Et il part de là. Et donc, en fait, il part d'une couleur piano. Il part d'une couleur bossa. Mmh. On retrouve la bossa à un moment donné dans le film, d'ailleurs. C'est pas une Insensatez, on est une autre. Et on retrouve le piano solo. Donc, je crois que c'est un petit... Tu vois, c'est quelque chose qui appartient à la vie. Bon, bien sûr, après, le film a été totalement revisité par Anthony et par Edrig, qui ont apporté toute leur science de la composition informatique. Parce qu'il faut bien comprendre que dans un film d'horreur, si t'en restes à des lignes mélodiques, ça le fait pas.
Bien sûr, on va l'entendre d'ailleurs. En ce qui concerne Pascal Laugier, dans son intention musicale, est-ce qu'il savait précisément ce qu'il voulait? Donc il savait qu'il voulait du piano, qu'il voulait cet esprit bossa. Il a des références, comme ça, il vous transmet des références. Peut-être je me dirige vers Anthony et Ed.
Pour revenir sur le piano, de ce que moi je trouve que le film est construit comme ça, il est très contrasté, il y a des passages très horrifiques et des passages très mélancoliques. Et le piano, justement, apporte cette justesse. Et oui, pour répondre à la deuxième question, il a un nombre incalculable de références. On n'a peut-être pas eu le temps de toutes les explorer, mais en tout cas, c'est rare de trouver un réalisateur avec une culture aussi grande de la musique de film. C'est moi, personnellement, la première fois que je vois un réalisateur qui s'y connaît, voire même mieux qu'un compositeur en musique de film. En tout cas, sur la culture de l'histoire de la musique de film et même des films, il est incollable. Et donc, du coup, de ce point de vue-là, c'est un plaisir parce que ça peut être à la fois très bloquant parce qu'on se dit waouh, wow, va falloir. Ça peut mettre la pression, mais au moins il sait de quoi il parle. Et c'est très encourageant.
Une petite anecdote par rapport à ça, c'est que contrairement à mes camarades, moi j'ai une culture de bande originale très basique. Voilà, j'ai quelques auteurs de prédilection comme Nino Rota, Ennio Morricone, mais bon. Et alors j'ai assisté à des discussions d'après-midi entière entre Pascal et Anthony quand ils venaient au studio, parce que ce sont deux geeks des musiques de films, donc c'était des conversations à n'en plus finir, et c'était très enrichissant parce que au fond, si tu veux, à travers ces discussions que Pascal avait, il y a sa passion pour la musique, qui est une passion viscérale. C'est pas quelqu'un qui va te parler de musique de manière extérieure comme la plupart des réalisateurs, à mon avis. Non, lui, vraiment, il parle de musique avec autant de passion et de viscéralité qu'il te parle de cinéma. Il ne fait pas le distinguo. Voilà, c'est ça.
Et j'ai l'impression que c'est dans le cinéma d'horreur où on retrouve de plus en plus d'amateurs de musique de film, même de la part des réalisateurs. Je pense à Christophe Gans, par exemple, qui est un grand amateur. Et donc, quel est votre rapport, vous, au cinéma d'horreur, puisqu'on est dans ce registre?
Nous, on venait pas plus que ça du cinéma d'horreur. Enfin, on aime beaucoup, on a quand même une culture du cinéma d'horreur. Mais nous, quand on a abordé le film, en fait, on s'est pas dit, on va essayer de recopier ou de s'inspirer de gens, il y a bien sûr beaucoup de codes, c'est ça un peu, je pense, qui fait la spécificité de cette musique. Mais c'est que nous, on a déjà essayé de se faire peur à nous, en fait, en premier, avant d'aller se dire, ouais, on va aller chercher des influences à gauche, à droite. Après, c'est inévitable, de toute façon, de retomber sur des choses qui nous ont plu dans The Thing ou dans les grands classiques d'horreur.
Carpenter était, par exemple, une référence?
Moi, pour ma partie, un peu plus, parce que on a bossé beaucoup aussi avec beaucoup de synthé, parce qu'on est féru de ça. Enfin, aujourd'hui, je pense que c'est indissociable de la musique de film. Et c'est que, du coup, forcément, oui, on a chercher des textures moins connotées, on va dire, que celles de Carpenter, parce que c'est à remettre dans ce contexte de son époque.
Mais... Il y a les Goblins aussi, pour Argento,
oui,
par exemple.
Oui, ouais, exactement, par exemple, c'est exactement ça. Après, voilà, il y a des références un peu plus modernes, en fait, sur... pas forcément sur de l'horreur.
C'est ça qui est marrant, c'est qu'on on s'est pas forcément inspiré de la musique d'horreur, on essaie justement de faire de la musique d'horreur avec ce qu'on aimait à côté.
Nos influences,
on a essayé de chercher justement des...
Et donc, il y a la musique, il y a aussi toute une bande-son. Vous avez contribué aussi au travail sonore, parce qu'il y a du sound design assez fort, qui contribue parfois à faire peur. Hein, les surgissements qu'il y a dans le film est vraiment, c'est presque une théorie du surgissement.
Ouais, bah oui, surtout, il y a un passage dans le film où il y a beaucoup de, justement, de jumpscares, et bah, la musique et le sound design s'entremêlent, à même parfois se demander qu'est-ce qui est sound design et qu'est-ce qui est musique. Mais je pense que c'est propre au film d'horreur, et du coup, c'est aussi les sound designers qui ont eu du goût de savoir quel sound design mettre avec quelle musique, et je trouve que ça fonctionne bien, justement.
Ghost Land, avec une musique d'Anthony Damario, Edrig et George Bukov, une musique qui répond parfaitement à sa première fonction, qui est de contribuer à la peur, hein, dans ce film Ghost Land, qui contribue à la peur, qui accompagne les surgissements du film. Il y a un mélange entre la musique et le son. On a entendu donc que Pascal Logie avait des références précises. Est-ce que votre travail était à l'image ? Est-ce que votre première inspiration, c'était ce qui se jouait à l'image ? Ouais. Il y avait un travail de synchronisation ?
Exactement. Bah, c'est le côté un peu montage aussi qu'on a... on adore bosser à l'image, en fait. Sur le scénario, c'est un autre exercice, je pense, mais à l'image, c'est vraiment un côté montage, et dans le film d'horreur, c'est encore plus impactant, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un côté sound design aussi, donc c'est vraiment à l'image que ça travaille, et je pense que c'est comme ça que ça a bien marché, en fait. C'est vraiment d'avoir le recul de l'image pour pouvoir dire, ok, ça marche, ça marche pas.
Je pense que c'est bien d'avoir la double démarche, de pouvoir travailler sur scénario et être un peu détaché des images pour pouvoir être beaucoup plus mélodieux, justement.
C'était
plus l'approche de Georges, et nous, c'était plus directement à l'image, de suivre vraiment les intentions du film.
Bah, pour tout te dire, j'ai pas du tout travaillé à l'image, c'est clair. C'est-à-dire que j'ai fait les thèmes, et Pascal les a pris tels quels, et a fait le montage sur la musique.
Donc c'est intéressant, parce que c'est un travail de musique de film assez singulière, hybride, où il y a à la fois un travail de thème au piano fait sans l'image, ensuite il y a une réappropriation de tout ce matériel à l'image, et ensuite il y a plein de collaborations. Par exemple, j'ai vu dans les crédits, en fait, que des titres étaient écrits par Elisabeth Marx et Théo Croix. Qui sont-ils?
Il faut savoir qu'au départ, lorsque Pascal m'a sollicité pour diriger la musique, j'avais un statut de producteur exécutif et de superviseur musical. Donc j'ai fait appel à des personnes compétentes, évidemment. J'ai constitué une première équipe, parmi lesquelles il y avait Elisabeth Merckx et Théo Croix.
D'accord.
Mais cette première équipe a été remplacée par une deuxième équipe constituée par Anthony et Edouard Rigg.
Des propositions ne convenaient pas, par exemple.
Voilà.
D'accord.
On n'aboutissait pas à faire le lien entre, justement, le mélodique et tout ce qui devait habiter le film dans sa pluridimensionnalité. Donc, je ne dirais pas que la première équipe a échoué. Je pense qu'elle a essuyé les plâtres. Mais Pascal étant très exigeant, je n'ai pas pu les garder. Enfin, je ne dis pas qu'ils ont été licenciés ou quoi que ce soit. Ils ont fait un très beau travail. Mais un travail qui, à un certain stade, était insuffisant. Donc, pour aller de l'avant, il a fallu effectivement que je fasse appel à des personnes qui se sont révélées être les personnes justes. D'accord. Parce qu'au bout du compte, il fallait quand même que... Tu sais, il n'y a pas de bonne et de musique. Pour nous, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique de film. Il y a la musique que le réalisateur dit valide et la musique que le réalisateur ne valide pas. Tu peux faire un chef-d'œuvre. Si Pascal Laugier te dit « je ne valide pas, elle n'est pas dans mon film », ben, tu as ton chef-d'œuvre, mais elle ne figure pas à l'écran. Donc, il y a plein de musiques que nous avons faites avec la première équipe qui ne figurent pas à l'écran. Et toutes les musiques qu'ont proposées Edrig et Anthony... elle figure à l'écran. Donc, au bout du compte, y compris pour notre partenaire canadien. C'est-à-dire que nous avons effectivement un accord de partenariat avec des compositeurs canadiens, plusieurs. Finalement, c'est Todd Brianton qui représentait le Canada dans le cadre d'une coproduction où il y avait une contrainte de coproduction, une contrainte de coopération. Mais c'est quand même le réalisateur qui décide au final.
C'est intéressant de dire ça pour nos auditeurs, hein, de la pédagogie de la musique de film. C'est qu'entre ce que les spectateurs découvrent dans le film, dans les crédits, très souvent, il peut y avoir musique par quelqu'un, et au final, le résultat qu'on entend ne correspond pas. Parce que là, on voit musique by Todd Brianton, et en fait, c'est juste des accords de coproduction.
Écoute, c'est délicat de rentrer dans le détail de cette opération, parce que il faut comprendre que les accords de coproduction se font avant même le tournage. Tu comprends ? Donc, nous, quand on arrive, on les ignore, ces accords de coproduction. Donc, on fait notre travail. Mais si, au bout du compte, tu as un metteur en scène qui valide 90% de ta bande-son, il reste quoi ? Et il dit, ben moi, c'est lui qui décide. En France, en tout cas, aux États-Unis, évidemment, ou dans certaines majors, ça ne se passe pas comme ça. Donc, c'est Pascal qui a décidé que 80%, 90% de la musique, c'était un tel et un tel, et voilà, c'est comme ça. Nous, on ne peut rien y faire, on n'a pas de pouvoir là-dessus.
En tout cas, au-delà du contexte de production, magnifique film Ghostland, et je suis ravi ici d'avoir pu rendre justice donc à votre travail, Anthony Damario, Edrig et Georges Boukoff, sur cette partition de Ghostland. Ghostland, avec cette musique qui donne un autre aspect du film, hein, plus romance aussi, plus tendre.
Nuançons. C'est pas parce que nous avons affaire à un film d'épouvante que la nuance nous est interdite. Il faut savoir que pour des raisons marketing, Ghostland est présenté comme un film d'horreur, d'épouvante, un modèle du genre. Oui, eh bien, c'est pas tout à fait ça. Ghostland est une magnifique histoire d'amour entre deux sœurs qui, au début du film, ne se supportent pas. C'est une magnifique histoire d'amour entre une mère et qui protège ses deux filles face à l'intrusion de deux psychopathes. Il n'y a pas que cet aspect horrifique, il n'y a pas que le côté qui fait peur. C'est la raison pour laquelle on a trouvé une complémentarité formidable entre nous trois, parce que il fallait, par le contraste, souligner l'amour, souligner l'humanité, souligner la beauté, et en même temps souligner la peur et les la surdimensionnalité, l'extrême émotivité de la terreur.
Merci, et on vient d'entendre cet aspect tendre dans ce morceau. Merci à vous trois d'être venus jusqu'à Aligre.
Merci à vous.